Marcel Amontano, bonjour.
Bonjour.
L'agenda de cette présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies s'annonce chargé, en particulier sur les dossiers africains. D'abord sur le Mali, où en est finalement la coopération autour du G5 Sahel et que compte faire la Côte d'Ivoire dans ce dossier?
Le problème du G5 Sahel, c'est essentiellement le problème de son financement. La mobilisation des ressources n'est pas à la hauteur des attentes des États du G5 Sahel. Le président Alassane Ouattara, bien que n'étant pas pays membre du G5 Sahel, a pris son bâton de pèlerin, compte tenu de l'impact de la situation malienne dans la sous-région, pour plaider en faveur du financement du G5 Sahel. Donc nous avons bon espoir que progressivement, les contributeurs qui ont pris des engagements répondront favorablement aux engagements qu'ils ont pris. Au niveau de la RDC, je pense que maintenant qu'il y a un candidat désigné du parti au pouvoir, l'élection devrait se tenir. Il y a des tensions, bien sûr, notamment au sujet de l'utilisation de matériel électronique. Il y a également le fait que très rapidement, après qu'il y a eu un candidat unique de l'opposition, cette candidature se soit déjà délitée un peu, puisque des poids lourds se sont retirés de cet accord. Mais nous avons bon espoir que globalement les choses se déroulent normalement. Et c'est vrai que le Conseil de sécurité restera très attentif à la question de la RDC pendant le mandat de la Côte d'Ivoire au mois de décembre. Il y a également la question de la Centrafrique. La Centrafrique, ils sont dans une situation différente. C'est un pays post-conflit. La Côte d'Ivoire a traversé cette situation de post-conflit. Ce que nous essayons de faire à la demande du président Touadéra, c'est d'apporter notre expertise et notre expérience pour leur dire comment nous, Côte d'Ivoire, nous avons réussi à sortir de cette crise aussi rapidement que nous l'avons pu. Le président Touadéra est très intéressé et très attentif à cela. Également, la Côte d'Ivoire préside le comité des sanctions. Et donc, nous veillons à ce que les sanctions soient respectées par l'État centrafricain. Parce qu'en général, quand on respecte les sanctions, on en sort beaucoup plus vite. Nous avons subi cette expérience des sanctions, de l'embargo. Et c'est par le respect des engagements qui nous étaient imposés que nous avons pu rapidement sortir de l'embargo et des sanctions.
Quel retour d'expérience vous faites aux pays qui accueillent aujourd'hui des opérations de maintien de la paix, en Afrique notamment?
L'ONUSI est un succès à cause de sa durée déjà. Ça a duré 13 ans et ça a duré peu de temps parce que la Côte d'Ivoire a compris que très rapidement, en sortant de la crise, il fallait se doter d'une vraie capacité d'assurer nous-mêmes la sécurité de notre territoire et la sécurité de nos citoyens. Mais ça, c'est lié aux capacités financières. Si très rapidement, vous n'améliorez pas la fiscalité, la perception des recettes, douanières notamment, vous n'avez pas la capacité de financer les opérations liées à la sécurisation rapide de votre territoire.
La COP24 se déroule en Pologne dans quelques jours. Parfois, la Côte d'Ivoire est épinglée par certaines ONG pour la déforestation, notamment. Comment concilier cette forte croissance que connaît la Côte d'Ivoire et les enjeux écologiques d'aujourd'hui?
La déforestation, elle est liée à plusieurs phénomènes. Chez nous, ici, il y a d'abord l'agriculture extensive, il y a les feux de brousse, il y a l'occupation illicite de certaines forêts classées notamment, etc. Et puis, il y a le temps aussi, il y a la sécheresse. Le ministre des Eaux et Forêts vient de faire adopter en Conseil des ministres une politique de réhabilitation, de préservation et d'extension des forêts. Et cette politique va voir, bien sûr, replanter un certain nombre d'arbres, etc. Et puis aussi introduire une nouvelle vision qui est l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on replante, en dessous, on plante du cacao, des plantes alimentaires fruitières, etc. Et c'est une nouvelle politique qui va aider à reforester plus rapidement et qui va encourager peut-être les gens à ne pas déforester parce qu'il y a l'exportation de bois qui a beaucoup contribué aussi à la déforestation en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il y a une politique pour gérer la déforestation, accorder moins de permis, etc., etc. Et de sorte que je pense que la politique de la Côte d'Ivoire va progresser rapidement vers une réduction importante du phénomène de déforestation.
Il y a 2 semaines à peu près, une réforme de l'Union africaine a été adoptée. Certains estiment que la montagne a accouché d'une souris.
Quand vous avez une Union africaine qui jusque-là était financée à un peu plus de 70% par l'Union européenne, quelle est sa crédibilité? Donc, on a mis en place un dispositif, et ça fait partie des axes de la réforme, et c'est un axe important, qui veut que maintenant, tous les produits qui ne sont pas africains, qui sont importés par nos pays, sont taxés à 0,2% en faveur du financement, du fonctionnement, etc., de l'Union africaine, dans le fonctionnement du Fonds pour la paix. C'est une avancée majeure. Même s'il y a un certain nombre de pays qui résistent encore, ben nous pensons qu'au fur et à mesure, on arrivera à les convaincre. Donc, nous voulons saluer le leadership du président Kagame.
Beaucoup de partenaires de la Côte d'Ivoire regardent le pays avec une certaine inquiétude à l'approche de 2020. Qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur dis que 2020 se passera bien. Vous savez, nous sommes tous marqués par ce que nous avons traversé ces 10 dernières années. tous autant que nous sommes, à tous les niveaux. Et j'irai droit au but. Les acteurs principaux, c'est le président Bédié et le président Ouattara. Je ne vois pas les présidents Bédié et Ouattara être prêts à assumer le risque d'une nouvelle déstabilisation de leur pays. Ils sont trop responsables, ils sont trop sages pour en prendre le risque. Et aucun sacrifice n'est trop grand pour la Côte d'Ivoire. Donc moi, personnellement, je peux peut-être aller à contre-courant de l'opinion générale et ambiante. Moi, je suis plutôt confiant pour 2020 parce que je connais les deux acteurs principaux.
Monsieur le ministre, merci.